Et ce sont les voix de service qui se poursuivent avec Clotilde Seil au micro pour cette prochaine demi-heure. Et j'ai envie de regarder avec vous ce qu'il y a à la une de la presse ce matin. Eh bien, ce qui retient, ce qui attire l'attention, évidemment, ce sont ces deux gros titres. D'abord, celui-ci, les États-Unis qui replongent dans l'horreur, cette tuerie qui a fait 10 morts sur un campus de l'Oregon. Je vais y revenir, bien évidemment. Et l'autre gros titre qui tient quasiment la moitié de la page, c'est même pas quasiment, qui occupe 50% de la page ce matin. C'est au sujet de M. Obu. Figurez-vous que le comité olympique savait depuis 2011 que ce monsieur s'adonnait parfois à des gestes et à des paroles disgracieuses envers la gente féminine. Le comité olympique canadien était au fait d'allégations très sérieuses quant au comportement déplacé de son président Marcel Obu envers des employés. Et il avait même sommé de modifier immédiatement sa conduite. Et c'est ce que révèle une lettre confidentielle obtenue par la presse. Alors, un petit extrait de cette lettre-là qui a été envoyée à Marcel Obu en juin 2011 par Jean-R. Dupré, qui est peut-être toujours d'ailleurs chef de la direction et secrétaire général du comité olympique canadien. On lui avait dit dans cette lettre-là, on lui avait signifié à M. Obu, « Vous devez vous abstenir de toucher les gens, de les embrasser, de leur faire des commentaires déplacés et des allusions à caractère sexuel. » Alors, dans la presse, je vais revenir tout de suite sur ce M. Obu, qui est dans l'eau chaude finalement. Dans la lettre dont on parlait il y a quelques secondes, adressée à Marcel Obu, il y avait ces commentaires aussi. Vous devez vous abstenir de toucher les gens, de les embrasser, de leur faire des commentaires déplacés et des allusions à caractère sexuel. Et puis on lui avait dit aussi à M. Obu, puisque nous n'avons pas reçu de plainte formelle de la personne concernée et puisque vous nous avez assuré, Marcel, que ce genre de comportement cesserait immédiatement, aucune plainte officielle ne sera déposée cette fois. Vous devez faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, mais on a su depuis que, malheureusement, ce n'était pas une, mais deux personnes qui se sont retournées contre les agissements et les paroles de M. Obu. Sylvie Fréchette a déclaré « S'il y a des victimes, qu'elles se lèvent. Si ce qui lui est reproché est vrai, c'est inacceptable et ça doit absolument cesser. » Quant à Jean-Luc Brassard, il a déclaré « Je ne peux pas croire que là où les personnes qui ont lancé ce processus l'ont fait pour leur gloire personnelle. Rares sont les athlètes et les proches de Marcel Obu qui ont accepté de commenter à visage découvert l'affaire qui secoue le mouvement olympique canadien, mais Sylvie Fréchette, elle y a consenti, appelant d'éventuelles victimes à prendre la parole. « S'il y a des victimes, qu'elles se lèvent. Je leur dis, levez-vous et parlez. C'est le moment de le faire », a dit la double médaillée olympique en entrevue. Parce que si ce qui lui est reproché est vrai, c'est inacceptable et ça doit cesser. Sylvie Fréchette, qui est maintenant âgée de 48 ans, n'a pas voulu se prononcer sur le fond ni l'enquête en cours. Elle a œuvré un an au Comité olympique canadien. Elle connaît bien Marcel Obu et elle affirme que l'avocat n'a jamais eu de comportement répréhensible envers elle. Nos intégristes à nous, c'est le titre de la chronique de Patrick Lagacé. Ce matin, nous sommes toujours dans la presse qui écrit « Collectivement, nous avons cliqué « J'aime » devant ce pape François moins coincé que ses deux prédécesseurs qui lèvent les pieds de prisonnières et de sidéens. Pape conciliant qui dit au sujet des homosexuels « Qui suis-je pour juger ?» Times en a fait son homme de l'année, 2013. Le Rolling Stones a mis sa photo à la une. Frappé des mots, les temps changent. Et qu'a fait François lors de sa visite aux États-Unis? Eh bien, en catimini, nous révèle M. Lagacé, il a reçu Kim Davis en audience. Oui, oui, Kim Davis. Vous savez, cette fonctionnaire municipale du Kentucky qui est devenue la Jeanne d'Arc de la droite religieuse, après avoir refusé de délivrer des permis de mariage aux couples de même sexe, en parfaite contravention de la décision de la Cour suprême des États-Unis. Madame Davis, écrit Lagacé, correspond en tout point à la définition d'une personne homophobe. Ceux qui l'ont appuyée sont des homophobes patentés. Mike Huckabee en tête. Et c'est à cette personne que le pape François aurait dit « Dixit, Madame Davis, merci pour votre courage. » Alors, demande Lagacé. Vous le comprenez, vous, le marketing papal? Le même marketing que tous les autres, au fond. Le même marketing que celui qui te fait soudainement découvrir que le yogourt grec, c'est bien meilleur que le yogourt tout court. C'est le vernis qui maquille la réalité. Et le pape qui tient des propos en public conciliants envers les homosexuels, c'est trompeur, comme les pubs d'ExxonMobil pour l'environnement. Ce pape-là est comme ses prédécesseurs, dit Lagacé. Il gouverne une église revancharde et brutale qui combat encore officiellement l'avortement, la contraception et les efforts législatifs encadrant le suicide médicalement assisté pour les malades en phase terminale. Il dit aussi, si on vivait dans la société laïque que vous idéalisez quand vous capotez sur une poignée de femmes qui portent le niqab aux cérémonies de prestation de serment, cher lecteur, les évêques québécois seraient dénoncés vertement pour ce combat contre une loi votée par des élus du Québec et dénoncés comme des intégristes. Si on vivait dans une société laïque, l'État cesserait aussi d'accorder des congés fiscaux aux lieux de culte et pour la pratique du culte, qu'ils soient catholiques, musulmans ou raéliens, un cadeau de 100 millions par année pour vénérer des amis imaginaires de toutes sortes. Mais on ne vit pas dans cette société laïque, nous sommes des cathos laïques. La laïcité, c'est notre marketing intérieur à nous, Québécois, quand il est question de religion. Ce sont les religions des autres qui nous irritent. Jamais celle qui est portée par les intégristes comme les La Croix, l'Épine et l'Ortie. Et puis au sujet des changements climatiques, Paul Journet dans la presse signe un éditorial ce matin qui va comme suit. Pour comprendre le risque climatique, il faudrait peut-être écouter ceux qui sont payés pour l'évaluer. Avec leur froid langage des chiffres, les assureurs n'attirent pas autant les caméras qu'un artiste indigné, dit Journet. Mais il faudrait les écouter davantage au sujet du climat. C'est ce qu'on conclut d'un brillant discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, prononcé mardi devant le marché d'assurance Lloyd's. Dans la lutte contre les changements climatiques, l'ennemi numéro un est la myopie. Or, c'est la tendance naturelle. Une multitude d'études démontrent qu'on sous-estime un risque s'il n'est pas immédiat. Et ce biais est aggravé par la politique où les partis ne proposent un plan que pour un horizon de 4 ans, ainsi que par la finance, où de nombreux investisseurs cherchent avant tout un rendement à court terme. Tout incite à pelleter le problème vers l'avant jusqu'à ériger un mur, et c'est ce que Carney nomme la tragédie des horizons. Pour élargir la perspective, on peut s'inspirer des spécialistes du calcul de risque, comme les assureurs. Que constate-t-il, demande de Journet, que les réclamations pour des intempéries ont quintuplé depuis les années 80 et qu'en raison des changements climatiques, ces catastrophes deviendront à la fois plus fréquentes, imprévisibles et coûteuses. Par exemple, le niveau de l'eau a augmenté de 30 cm à New York depuis les années 70. Cette vulnérabilité a fait hausser de 10 milliards les réclamations lors de l'ouragan Sandy en 2012 et un autre ouragan, Joaquin, risque de frapper la côte est américaine cette fin de semaine. La science prévoit que pour limiter les dégâts, le climat ne doit pas se réchauffer au-delà de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère industrielle. Afin d'atteindre cette cible, on estime que les 2/3 des réserves connues en énergie fossile doivent rester enfouies. Or, la valeur des sociétés en énergie est basée sur la totalité de leurs ressources, même si la majorité était ainsi inutilisable. Cette bulle menace de se dégonfler à moyen ou à long terme, écrit toujours Paul Journet dans son éditorial « Je vous le disais ». La prochaine grande rencontre sur le climat se déroulera à Paris en décembre, nous rappelle-t-il, c'est jamais que dans 2 mois et demi, ça. Même si les États adoptent des cibles sérieuses de réduction de gaz à effet de serre, cela ne suffira pas. Tant que les paramètres du marché seront viciés, ces effets le seront aussi. D'où l'urgence de faire payer à chacun sa pollution. au lieu de permettre d'en refiler le coût à la société. Alors, que proposent à cet égard les candidats au poste de Premier ministre canadien ? Oui, nous y reviendrons bientôt, écrit en guise de conclusion Paul Journet. Après une courte chanson, je vais me faire le plaisir de vous lire la chronique de José Blanchette, sa chronique Zeitgeist, aujourd'hui dans Le Devoir.
J'ai croqué ta pomme d'Adam. Et depuis, je n'ai jamais eu faim de corridor autre que ton corps. Ton corps est sain de fleurs en glorieux. J'ai pris ton bateau en papier. Je n'avais jamais vu la mer avant, en bottes d'eau ou même en souliers. Je n'avais jamais vu la mort avant. J'ai inventé une île à colorier, mais je n'ai rien pour tailler.
Claude Pelgag sur les ondes de Canal M, et je vous l'avais promis, c'est toujours Clotilde Seille, mais Clotilde qui vous fait la lecture des journaux, des éditoriaux, des chroniques que je peux y trouver ce matin. À partir de 11h, vous allez retrouver Kevin Breton qui va lui vous parler de sport. Oh oh, le Canadien a perdu ce matin, il ne va pas être de bonne humeur, le Kevin. Et puis après, je vais recevoir... qui je vais recevoir ce matin? Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est Kevin qui va rester avec moi. Oui, c'est Kevin qui va nous lire un papier à son tour ce matin, et puis nous irons en région. Mais pour l'instant, voici la chronique de José Blanchette telle qu'elle nous la présente ce matin dans Le Devoir au sujet de l'intelligence en campagne. Oh là là! Elle dit, Madame Blanchette, on les a vus jongler avec des balles, donner le biberon à un veau, rempoter des plantes vertes, porter des bébés, des chapeaux de cow-boy, des colliers de fleurs exotiques, des casques de construction, des gants de boxe, tout pour la cause. Je m'attends à les voir revêtir le niqab pour aller chercher le vote des musulmans transgenres. Ça viendra peut-être, écrit José Blanchette. Nos politiciens en campagne électorale font-ils tout pour placer un abat-jour sur la vivacité de leur esprit? Ce regard bovin, ce discours contenu de vendeurs d'extracteurs à jus, ce sourire, un rien niais, est-il l'œuvre de Tim Hortons ou de Dieu? Demande-t-elle. Il est bien connu que l'électorat ne goûte pas trop les intellectuels aux discours nébuleux et trop savants. Mais ces mises en scène culturelles nuisent-elles à l'intelligence des candidats ou sont-elles une insulte à la nôtre? Prennent-ils les éclipses de lune comme modèle ou brillent-ils encore les lumières éteintes? Font-ils tout pour avoir l'air normcore ou fournissent-ils un effort pour s'illustrer tout en étant anormalement normaux? Ce que je me demande depuis le début de cette campagne, particulièrement après les avoir vus débattre en français et en anglais, pas de doute. Dans leur langue maternelle de néo-natifs de souche, nos chefs améliorent la luminosité et passent d'une ampoule fluo compacte longue durée à une 100 watts bonne pour 4 ans. Si j'étais stratège politique, écrit José Blanchette, j'aurais fait lire l'essai « Comment paraître intelligent » à mes chefs avant le débat de ce soir. Je sais, l'intelligence, c'est suspect. Même Siri dans votre iPhone l'est. Mais il s'agit ici de paraître. Et ça ne dure que 11 semaines. Ce qu'ils en font après, on le sait déjà, tout n'est qu'image et perception. D'ailleurs, j'ai demandé à Siri, qui est le chef le plus intelligent? Siri m'a répondu, c'est vous. La flagornerie ne nous mènera nulle part, même si elle conduit généralement les troupes aux urnes. Définir l'intelligence, dit Madame Blanchette, me semble une aventure bien hasardeuse. Pour ma part, j'y vois un mélange d'instinct, de sensibilité, de sens critique et de la répartie. La rhétorique ne nuit pas. De mémoire, de sagesse, de capacité de réflexion et d'association d'idées, d'empathie, de vivacité, d'humour, d'autodérision, de doute, d'anticonformisme, de sens inné du décodage, voire d'introspection. J'en demande. Et pourtant, je ne parle même pas de culture générale, car même un caniche peut être plus intelligent que son maître. En passant, elle dit, seuls les gens vraiment intelligents ou très riches, comme Donald Trump, peuvent s'offrir le luxe d'avoir l'air excentrique ou un peu lunatique, du genre la moitié gauche de mon cerveau cogite, tandis que j'annonce le message attendu. Dans le cas de Trump, le message peut même être inattendu. La répartie n'est pas donnée à tout le monde non plus, mais selon l'auteur de « Comment paraître intelligent », les débats, tu gagneras, soit par l'attaque, soit par la neutralité. Et comme disait Coluche, mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. Éblouir la galerie devant la demande de l'intelligence, ou du moins l'instinct de survie d'une outarde qui migre plein sud. On conseille aussi aux aspirants au titre d'être un peu méchants, la gentillesse fait souvent béné, ou du moins sarcastique, et d'adopter un regard pénétré, à défaut d'être pénétrant. Le politicien intelligent possède cette rare qualité de nous rassurer sur nous-mêmes et notre intelligence moyenne. Ainsi, la cravate bleue rappelle la pancarte, ou vice-versa. Et nous ne le cachons pas, le mérite est une question bien relative et un mauvais baromètre pour déterminer l'intelligence. L'idéologie méritocratique et libérale nous invite à penser que les inégalités de richesse et de statut seraient liées aux inégalités d'intelligence, souligne à propos Pierre Ménard, qui a remarqué que des crétins ont fait des carrières fulgurantes. Alors, vous avez quelques noms en tête, nous demande José Blanchette, et bien moi aussi. Et ils ne sont pas tous en politique. Au final, les plus intelligents, ou sont-ils plus malins, sont ceux qui réussissent à se faire élire. Peu importe pourquoi, ni comment. Et ceux qui ne votent pas peuvent se satisfaire de ne pas être dupes. Ceux qui votent continueront à se gratter la tête en se demandant s'ils croient encore à la démocratie. Et c'est reparti pour un autre tour. Et on en reparlera dans 4 ans, concluait José Blanchette. Tiens, vite fait, une opinion, celle de Claude Boucher, professeur à la retraite de l'université de Sherbrooke, au sujet des élections fédérales et du port du niqab. Pour lui, il s'agit d'un piège à loup. Il nous dit « Cette histoire de niqab est en train de se transformer en pelure de banane idéologique. Elle ressemble à la cape rouge que le toréador agite devant le taureau tout en cachant l'épée qui le mettra à mort. Il est temps de se rendre compte que Harper et les conservateurs tentent par ce leurre de nous tromper. Au Québec, une très forte majorité de personnes est d'accord avec l'idée que tous et toutes devraient donner et recevoir des services publics avec le visage découvert. Une majorité de personnes est d'accord avec l'idée que tous et toutes devraient donner et recevoir des services publics avec le visage découvert. » Je viens de le lire, ça, non? « Une majorité de personnes est d'accord pour penser que ces voiles constituent une offense au principe fondamental de l'égalité des hommes et des femmes. Monsieur Duceppe a raison sur ce point. Est-ce une raison pour mordre à cet appât empoisonné ?» Revenons au lucide bon sens par lequel nous étions il y a peu éclairés. Votons ABC, Anybody But Conservative. Que chacun ou chacune détermine lucidement et sans parti pris quel candidat a le plus de chances de remporter sa circonscription et vote pour lui. Que l'on se rende compte que si le Bloc québécois remplit naguère un rôle utile, il ne peut être dans les circonstances que néfaste. En divisant le vote, le 19 octobre prochain, déposez votre bulletin dans une urne de carton et non dans un piège à loup. Sachez déterminer qui sont vos plus dangereux adversaires. Bon sens oblige, concluait ce monsieur Claude Boucher, professeur à la retraite de l'Université de Sherbrooke. D'autres opinions sur le même sujet. Diane Bisson, ça s'appelle délit de faciès. Canadienne, instruite par l'ambassade lors de l'affectation de mon mari en Arabie Saoudite de l'obligation de porter l'abaya et le voile, oui, le voile de tissu noir transparent qui couvre complètement le visage. J'ai vite réalisé, dit Diane Bisson, la force du visage sans visage. Sous cet amas de tissu noir, les femmes ne sont que des fantômes noirs, presque irréels, errant dans les souks. Lors de ma première sortie au marché, raconte-t-elle, avec mes compatriotes canadiennes, on m'a dit « Remarquez nos souliers, ce sera la seule manière de nous repérer ». Surprise sur le coup, j'ai vite compris dès notre arrivée au marché. Je dois cependant avouer que je vivais une certaine liberté dans cet anonymat. Je voyais tout et l'on ne me voyait pas. Jusqu'au jour où, sous 40 degrés de chaleur et dans un geste d'impatience, j'ai eu l'audace de déposer sur mes épaules voile et capuchon. Un mutawa, c'est-à-dire un policier religieux, m'a alors chassé du marché à coups de bâton. Et cette autre fois en plein désert, alors que des bédouines, après nous avoir offert du thé, nous ont poursuivis, tirés les cheveux et bousculés parce que, sous la chaleur, nous ne portions qu'une robe longue, mais sans voile ni abaya, au milieu de nulle part. Aujourd'hui, je suis dans mon pays, dit Diane Bisson, je me retrouve de plus en plus devant des femmes voilées et j'ai perdu ma naïveté. André Massé parle, lui, de la pression des proches. « Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre, écrit-il lors d'un voyage en Ouzbékistan, que les femmes ouzbèques avaient manifesté en grand nombre dans les années 20 auprès des autorités de la nouvelle URSS pour retrouver le droit de porter la burqa. » En effet, lors de l'annexion de l'Ouzbékistan à l'URSS, le gouvernement russe avait déclaré la burqa interdite, puisque dans le communisme, les hommes et les femmes doivent être égaux. Beaucoup de femmes ont spontanément enlevé leur burqa, particulièrement les plus jeunes, mais quelques mois plus tard, les participantes à une grande manifestation féminine exigeaient des autorités le droit de pouvoir porter la burqa à nouveau. Les autorités gouvernementales, croyant avoir libéré les femmes, n'y comprenaient plus rien. Mais quelle était donc la raison principale évoquée par ces femmes ? C'était pour faire cesser les meurtres et la violence physique et verbale contre ces femmes qui l'avaient si outrageusement enlevée. Qui étaient les auteurs de cette violence ? Les hommes de la famille et du clan. C'est alors, dit André Massé, que j'ai compris que les femmes qui portent le voile, le niqab ou la burqa, le font uniquement sous la pression du clan. Cela n'a rien à voir avec la religion. La seule décision personnelle là-dedans est de vouloir survivre et d'être acceptée du clan dont elles sont issues. Et un petit dernier pour la route sur le même sujet. Distinguer le hijab du niqab et de la burqa. Elle s'appelle Rima Demanins. Elle porte le voile, apparemment, si j'en crois la photo que l'on voit en exergue à cette opinion. Elle dit « Il devient difficile d'ignorer l'ampleur que prend la question du niqab dans les prochaines élections. Je crois que le Québec a d'autres chats bien plus urgents à fouetter. Mais il est toujours plus facile de s'arrêter à des sujets minimes que d'aborder les vrais problèmes. Ce qui est décevant, dit-elle, c'est qu'aucun de nos politiciens ne s'attarderait sur le sujet en temps normal, surtout pas M. Harper. Avant d'aller plus loin et de me faire traiter de raciste, je tiens à préciser que je suis musulmane moi-même. J'ai notamment grandi dans une famille où la grande majorité des femmes portent le voile islamique. J'ai bien dit le voile et non le niqab, car ce dernier n'est aucunement un devoir religieux. L'islam demande aux femmes musulmanes de se recouvrir les cheveux d'un hijab et de choisir un style vestimentaire modeste. Nulle part le niqab ou la burqa ne sont mentionnés. On ne demande pas aux femmes de se recouvrir le visage de manière intégrale. Celles qui décident de le faire le font souvent par souci de maintenir une tradition culturelle, non pas parce que c'est mentionné dans le Coran, dit cette femme, je vous le rappelle, qui est musulmane, ou dans les enseignements islamiques. C'est pourquoi je suis favorable à l'abolition du niqab et de la burqa. Je trouve qu'il est d'autant plus juste de refuser le niqab lors d'une cérémonie de prestation de serment. Le visage à découvert fait partie de nos valeurs, non pas le contraire. Et il va de soi qu'une personne décidant de venir vivre au Canada respecte notre choix de société. Ne respectons-nous pas le choix des Iraniens en arborant un voile chez eux puisque leur société a été construite à partir de principes islamiques? La liberté est au sommet de nos valeurs, mais pas au prix de l'harmonie, de la sécurité et de la communication des citoyens. Quand je rencontre une jeune femme portant le voile, je ne ressens aucun malaise, car le contact premier passe par son visage, non par ses cheveux. Alors qu'avec le niqab et la burqa, ce contact est impossible, sans compter qu'on ne sait même plus à qui on s'adresse. Maintenant, il s'agit d'un enjeu important, mais nullement pressant, et il est décevant de voir que nos politiciens font de l'islam, encore une fois, un enjeu électoral. Je vous rappelle que vous écoutez Les Voix de Service. Restez là, dans quelques minutes, Kevin Breton va prendre ma place pour vous parler de sport. Je viendrai le rejoindre un petit peu plus tard et ensuite nous irons voir ce qu'on peut lire dans les quotidiens régionaux ce matin.
Mark Stone a visiblement plus mal au poignet droit, celui que Piquet Subban avait frappé d'un coup de bâton au premier tour des séries l'an dernier. L'ailier des Sénateurs a mené le bal dans un gain de 5-2 contre le Canadien hier au Centre Bell. On en parle tout de suite au sport. C'est un texte signé Jean-François Chaumont dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Il poursuit en disant « Stone, qui cherchera à montrer que son incroyable fin de saison l'an dernier ne tenait pas la chance, a marqué un but en plus d'en préparer deux. Cody Ceci et Mike Hoffman ont profité de sa générosité pour déjouer Carey Price. Clark McArthur et Patrick Wehrock ont réussi les autres buts en troisième période. Du côté du CH, Andrei Markov et Nathan Beaulieu ont chacun battu Craig Anderson. Au chapitre des tirs, le tricolore a malmené ses rivaux 43-21, mais on oubliera rapidement le résultat de ce match. Cette sixième et avant-dernière rencontre préparatoire servait plus d'évaluation pour certains joueurs. Michel Therrien a noté « Il ne faut pas se fier au résultat final, on a fait plusieurs bonnes choses. » Nous avons été créatifs, mais il faudra trouver un juste milieu pour ne pas devenir une équipe qui joue à haut risque. Michel Therrien disait à la veille de la visite des Sénateurs qu'il patinait pour répondre aux questions des journalistes concernant les derniers enjeux pour la formation de son équipe. L'entraîneur en chef désirait s'offrir encore du temps avant de rendre ses dernières décisions. Il a reçu peu de réponses contre les Sénateurs. Devant le filet, le CH n'avait pas trop à analyser le travail de Price. Et à la ligne bleue, les Jared Tinardi et Mark Barberio ont regardé la rencontre de la passerelle de Price, tout comme l'ailier Jacob Delarose. Voici trois joueurs qui ne connaissent toujours pas leur sort avant avec le tricolore. Ils obtiendront visiblement une autre audition pour le dernier match préparatoire contre les Sénateurs samedi à Ottawa. Dustin Tokarski jouera également gros à son prochain départ face aux Sens. Parmi les joueurs en uniforme face aux Sénateurs, Charles Hudon et Sven Andrighetto n'ont rien fait de magique. Andrighetto a été le plus visible des deux. À moins d'une surprise, ils prendront la route de St. John's d'ici les prochains jours. Hudon n'a toutefois pas à rougir de ce cas. Le Québécois a joué avec beaucoup d'aplomb et il a rappelé que le jour où il patinera sur une glace de la LNH n'est pas si lointain. Un autre texte de Jean-François Chaumont dans le Journal de Montréal aujourd'hui intitulé « Pacioretty passe le test ». Pour une première fois, Max Pacioretty a porté le C sur son chandail. Il a aussi mis à l'épreuve son genou gauche pour une première fois depuis le début du camp. C'était un sentiment spécial de voir cette lettre sur mon gilet, même s'il s'agissait uniquement d'une rencontre préparatoire, a dit Pacioretty après le match. J'en retire une grande fierté. J'ai eu à me calmer un peu avant le début de la rencontre pour revenir à mon style de jeu. En ce qui concerne mon genou, je n'ai pas ressenti de douleur, a-t-il poursuivi. Plus le match se déroulait et mieux je me sentais, c'est un bon signe. S'il cherchait une bonne façon de s'assurer de la solidité de son genou, Pacioretty l'a expérimenté en première période. Il a foncé directement vers le filet de Craig Anderson, mais il a chuté assez lourdement sur sa jambe en raison d'un accrochage avec Zach Smith. « Oui, c'était un bon test », a-t-il admis. « Pour foncer sur le gardien, il faut de la confiance et je n'ai pas eu peur de le faire. Je ne suis pas aussi fort que si on se retrouvait à la mi-saison, mais j'étais content du résultat. » Alex Galchenyuk, Larceller et Alexander Semin ont poursuivi sur leur lancée contre les Sens. Les trois attaquants ont contrôlé la rondelle à plusieurs reprises, mais parfois, ils ont trop versé dans la dentelle. C'est le défi de trouver le bon équilibre, a reconnu Galchenyuk. Je trouve ça vraiment positif de constater à quel point nous avons développé une belle chimie en peu de temps. Je dois toutefois rester réaliste, on parle uniquement de rencontres préparatoires. Nous n'avons pas encore joué un véritable match. Nous avons du plaisir sur la glace, mais nous ne pouvons pas nous faire prendre trop souvent avec des jeux plus risqués, a-t-il conclu. On passe maintenant au journal La Presse. C'est un texte qui est co-signé Vincent Larouche et Gabriel Bellan. Le titre, allégation de harcèlement sexuel contre Marcel Aubu, : le Comité olympique canadien savait depuis 2011. Dès 2011, le COC, le Comité olympique canadien, était au fait d'allégations très sérieuses touchant des gestes déplacés qu'aurait commis son président Marcel Aubu à l'endroit de certaines employées, a appris La Presse. L'organisme avait même demandé à M. Aubu de s'engager à cesser de toucher les employés, de faire devant elles des allusions sexuelles ou de les embrasser, hormis des bises en guise de salutation. L'affaire est résumée dans une lettre à l'intention de M. Aubu datée du 13 juin 2011 et signée par Jean R. Dupré, qui était alors chef de la direction et secrétaire général du COC. La presse l'a obtenue hier. Mercredi, M. Aubu s'est retiré temporairement de ses fonctions en raison du déclenchement d'une enquête interne au sein de l'organisme. Selon le Globe and Mail, l'enquête concerne une plainte pour harcèlement sexuel à l'endroit d'une employée de la Fondation olympique canadienne. Aucune enquête criminelle n'a été évoquée dans cette affaire. Or, selon la lettre de juin 2011, Marcel Aubu s'était engagé, il y a déjà plusieurs années, à changer de comportement à l'endroit des femmes, ce qui avait convaincu le COC de ne pas déposer de plainte contre lui. La missive indique que M. Aubu avait été rencontré le 3 juin 2011 par M. Dupré en compagnie de l'avocate interne Yolande Stork et d'un gestionnaire qui est aujourd'hui devenu chef de direction du COC, Chris Overholt. La rencontre visait à discuter de la politique du COC sur le harcèlement et de très sérieuses allégations dans la foulée d'un week-end d'activité à Moncton. Selon ce qui nous a été rapporté, l'incident comporte des commentaires déplacés de votre part voulant que la personne devienne votre copine et vienne travailler pour vous. Il est aussi question d'attouchements déplacés et d'un baiser sur les lèvres, peut-on lire dans la lettre envoyée à M. Aubu. Cet incident a été observé par trois des Olympiens et il a fait jaser au sein du personnel de bureau, poursuit la lettre. L'auteur poursuit en indiquant avoir reçu de l'information d'autres sources, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. puisque nous n'avons pas reçu de plainte formelle de la personne concernée et que vous nous avez assuré, Marcel, que ce genre de comportement cesserait immédiatement, aucune plainte officielle ne sera déposée cette fois, poursuit le chef de la direction. Ce dernier énumère ensuite une liste d'instructions à l'endroit du président. Cessez de toucher les gens. Cessez les baisers, hormis les billes en l'air, en guise de salutation. Cessez de faire des commentaires invitant une interlocutrice à être votre copine, à venir travailler avec vous, ou disant combien vous la trouvez belle, en ajoutant « Pourquoi n'es-tu pas mariée ?» ou « Maintenant, je sais pourquoi tu n'es pas mariée », en insinuant qu'elle est une femme difficile. Cessez toute allusion sexuelle de tout ordre, que ce soit devant des hommes ou devant des femmes. Ne pas tenter de parler de cette rencontre ou de l'incident qui y a mené. Vous devez faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Merci de votre engagement, Marcel. Nous avons de grandes choses à accomplir. Concentrons nos efforts à faire du Comité olympique canadien la meilleure organisation possible et travaillons ensemble pour y arriver, conclut la lettre envoyée à Marcel Aubut. L'auteur de la lettre, Jean Dupré, un ancien directeur général de patinage de vitesse Canada, est arrivé en avril 2010 au COC. Il a quitté ses fonctions 18 mois plus tard, soit 2 mois seulement après avoir signé la lettre adressée à M. Aubut. Il citait à l'époque des raisons personnelles. Appelé à réagir hier, Marcel Aubut s'est refusé à tout commentaire. Un appel sur son cellulaire nous a valu d'être rappelé par Dimitri Soudas, ancien porte-parole de Stephen Harper et du COC. Il n'a pas voulu commenter la lettre de 2011, mais nous a renvoyé un communiqué publié mercredi au nom de M. Aubut. M. Aubut a déclaré qu'il n'a jamais eu l'intention d'offenser ou d'indisposer quelqu'un par ses paroles qu'il aurait prononcées dans le cadre de ses fonctions, peut-on lire dans ce communiqué. Et quant au COC, son responsable de communication n'a pas rappelé la presse hier. Bonjour Clotilde.
Bonjour Kevin.
Ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Oui.
Ben oui, l'affaire de M. Aubut, finalement, ça commence à...
Ça fait des inquiets.
Hein.
Oui,
ça fait des inquiets, puis j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure aussi. Hein, et puis...
Il y avait des soupçons de...
Il y avait des soupçons depuis 2011. Écoute, ça fait le gros titre ici...
dans la presse.
Dans la presse. Ouais, le comité olympique savait depuis 2011. Bon, eh ben,
et puis
en même temps, il y a M. Gomeschi hier qui a dit qu'il
plaide
non coupable.
Ah, ça, j'ai manqué ça.
Ah, oui, monsieur.
C'est pas, merci. C'est pas sportif.
c'est des accusations, c'est incroyable.
Bonne fin de semaine.
Merci beaucoup.
Merci, bye-bye, Kevin. On y va avec mon ami Christiane Campagna qui est revenu en studio avec moi. Alors, Christiane,
oui.
Aujourd'hui, de l'histoire?
Ou... Ben oui, j'avais envie de, en lien avec l'actualité, j'avais envie de revenir sur la transformation que vivra le journal La Presse en janvier.
OK.
Dans les autres médias, on a beaucoup réagi. On a dit qu'on s'est défendu, on a dit qu'on n'allait pas abandonner son lectorat, qu'on allait conserver le papier, tout ça. Et je me suis dit, on va regarder ça dans quelques années avec du recul et on verra qui aura dû soit mentir, va changer d'idée peut-être avec le temps.
Ouais,
donc,
ouais.
Combien de temps ça prendra avant que les autres suivent, ceux qui ne suivront pas. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière grande transformation de la presse écrite, elle a eu lieu au tournant du 20e siècle et le journal La Presse était un leader ce domaine-là, la première
déjà.
Fois aussi, voilà. Parce que, bon, la presse est fondée en 1884 par un certain William Edmond Blomard, quelqu'un qui était proche des conservateurs. Mais rapidement, le journal est racheté par l'imprimeur Tréflé Bertium. Si vous cherchez un prénom pour votre petit, là, Tréflé Bertium.
Ah oui, c'est bon. Et comment ça s'écrit, Tréflé?
Comme ça se dit, mais avec deux F.
Tréflé. Ah oui? Ah, ben.
Et puis, lui, il en fait un journal qui supporte plus ou moins ouvertement les libéraux de Laurier, mais c'est quand même le journal qui, avec le Montreal Star, représente la grande transformation du journal d'opinion vers le journal d'information. On diversifie le contenu, les nouvelles prennent le dessus sur les textes d'opinion, et l'objectif, c'est d'élargir le public.
Okay,
c'est de viser tous les membres de la famille. On aura des pages familiales, on aura des pages féminines.
Oui.
Et de rejoindre aussi peut-être davantage de classes sociales que le journal d'opinion traditionnel qui visait l'élite, les hommes très politisés. De toute façon, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et les journaux étaient soit l'organe d'un parti politique ou d'une autre faction comme l'Église ou les hommes d'affaires, des choses comme ça. Et en élargissant le public comme ça, l'idée, ça s'accompagne d'un changement de revenus. L'idée, c'est de vendre des lecteurs aux publicitaires.
Ben oui, c'est toujours ça.
Alors qu'auparavant, on comptait sur le prix de l'abonnement qui était très élevé et sur le soutien d'un parti politique ou d'autre
organisation. On parle de quelle année, Christiane?
Ça se passe entre 1884, entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale. Il y a un livre là-dessus qui est écrit par Jean de Bonville, « L'apparition du média de masse au Québec ». Qui date ça 1884-1814, 1884 étant l'année de fondation du journal
okay.
La Presse. Et quand on compare les deux unes, en fait, la une n'existe pas en 1884. Au 19e siècle, la première page d'un journal, là, c'est très tassé, il n'y a aucune illustration, l'écriture est minuscule et tout est là, pêle-mêle, les dépêches télégraphiques, les comptes rendus parlementaires, des publicités parfois sur la première... Des fois, c'est des petites annonces qui sont sur la première page.
Tout est à faire. Quoi.
Voilà. Et tandis qu'en 1914, là, c'est complètement le contraire. C'est la une au sens où on l'entend aujourd'hui avec des photographies, des titres en gros caractères, ce que Jean de Bonville appelle la vitrine de l'actualité ou un instrument d'incitation à la lecture.
Oui.
Alors, vraiment, la presse et le Montreal Star étant l'archétype de cette transformation qui avait commencé beaucoup plus tôt en Angleterre et aux États-Unis vers 1830, déjà, les penny papers, donc accessibles à tous parce qu'ils coûtent un penny seulement. Cette transformation qui, chez nous, se fait au tournant du 20e siècle. Vu que la presse était leader, je trouve ça intéressant qu'ils soient les premiers, cette fois-ci, à faire le geste de laisser tomber le papier. Alors, l'histoire nous dira s'ils ont été des leaders ou s'ils ont essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné, on ne sait pas.
Quel est votre avis à vous?
Je ne sais vraiment pas. La question que je me pose en ce moment en tant que personne qui écrit sur l'histoire de la presse écrite, je le fais sur Internet, c'est... Avant, j'utilisais histoire de la presse écrite et histoire des journaux pour varier mes formulations. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on parle de la même chose avec la presse plus? Ouais. Est-ce qu'on parle encore d'un journal? Je pense qu'on parle encore de presse écrite. Mais est-ce qu'on va encore... Je l'inclus encore dans l'histoire des journaux?
Ouais, non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que oui, mais ça va prendre du temps. Je pense qu'ils sont très, très précurseurs parce que d'ici 20 ou 30 ans, la génération de ceux à qui le papier va manquer auront disparu, je pense. En tout cas, ou seront en voie d'eux. Alors, à ce moment-là, toute la génération montante, hein, tous les mômes en ce moment qui naissent avec des iPads dans les mains, pour eux, ce sera... Même que dans 20 ans, on trouvera certainement que la presse plus est complètement dépassée. Quoi. Je ne sais pas ce qu'ils feront à ce moment-là, mais il y aura peut-être des machins en trois dimensions qui sortiront de l'écran.
C'est sûr que...
Comme des hologrammes, là, vous savez.
Comme à d'autres époques, évidemment, il y a aussi des laissés pour compte, à la fois chez les lecteurs, mais aussi chez les employés qui... Et le Journal de Montréal, qui a beaucoup dit « nous allons garder le papier », est important de se rappeler que contrairement à la presse, eux, ils ont de l'intégration verticale et ils ont des imprimeries.
Oui.
Alors, eux ont peut-être intérêt à garder ce modèle-là plus longtemps.
Ah, c'est peut-être ça. Ils devraient peut-être pas non plus parler trop vite parce que effectivement, si à un moment donné ils se mettent aussi à ça, ils auront l'air de beaux niaiseux quand on reprendra par exemple la chronique du jour de Christiane.
Oui, c'est comme quand on lit les vieux éditoriaux de Henri Bourassa contre le vote des femmes.
Bien intéressant, merci. En région, j'ai envie de commencer par la caricature dans le droit. C'est signé Badeau. Photo Gatineau, une photo de presse bannie pour indécence. Vous savez qu'il y a une exposition en ce moment à Gatineau et il y a une photo de Femen au sein nu qui a été bannie de cette exposition-là parce qu'on ne veut surtout pas choquer nos petits garçons et nos petites filles. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu en référence, en écho à cette nouvelle un peu absurde qui est sortie hier dans le droit qu'on voit cette photo de Madame Thibault avec un gros X dessus et en légende Gatineau, une photo de presse banni pour indécence. Bon. Alors, aujourd'hui, dans le droit, je vais essayer d'aller me rendre le plus vite possible à la page 4, la page des élections. Juste quelques mots de Patrick Duquette pour un petit rappel comme ça. qui nous dit « Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire à la fin qu'elle garde son niqab pour prêter serment ?» Deux femmes dans tout le pays refusent de se découvrir le visage au moment de prêter allégeance au pays. Et ça vous dérange à ce point-là, je veux dire, dit Duquette, ça vous enlève quoi? Vous êtes plus pauvre, moins heureux, ça vous empêche de vaquer à vos activités? Laissez-moi deviner. Vous craignez que si on ne dit rien, on en trouve une brèche? Qu'on crée un dangereux précédent où s'engouffreront des centaines, que dis-je, des milliers de femmes musulmanes qui arrivent au Canada? C'est de ça que vous avez peur, qu'on perde le contrôle? Que notre société libre et démocratique devienne la proie de l'obscurantisme religieux? Comme toujours, la peur est mauvaise conseillère, dit Duquette dans le droit. On voit le niqab comme un symbole de l'oppression de la femme dans des pays comme l'Arabie saoudite et le Yémen, et il y a de cela, bien sûr, mais, dit-il, j'ose prétendre, qu'il y a une motivation beaucoup plus terre-à-terre pour porter le niqab à une cérémonie d'assermentation. C'est la force de l'habitude. Vous vous souvenez de la vache à Gratton, Denis Gratton, qui avait une vache dans son bureau? C'était une affaire de Paris avec l'ancien maire. Et puis, à un moment donné, on lui a dit « Écoute, mon petit bonhomme, va falloir que tu te débarrasses de cette espèce de vache qui est en papier mâché. » Eh bien, figurez-vous que cette vache a été très payante parce que finalement, la vache a été obtenue pour 300 pour 3 000 $ hier matin lors du lancement de la campagne 2015-2016 de Centraide Outaouais. Alors évidemment, il est bien fier de cela, notre ami Denis Gratton. Faut dire que l'encan était mené par Michel et le magicien Daniel Coutu qui animait l'événement et les deux ensemble sont si convaincants qu'ils pourraient vendre des couches au pape. Donc ma vache, dit-il, Gratton est parti pour une bonne cause. Mon ami à quatre pattes broutera donc toute l'année de bureau en bureau, amassant du même coup des sous pour les gens dans le besoin, tout en faisant sa petite part pour que Centraide Outaouais atteigne son objectif de 5,1 millions. Oh, waouh, ben bravo, Gratton. Et quand j'ai souhaité un dernier adieu à ma vache en lui disant qu'elle retournerait chez elle dans le bureau du maire de Gatineau, je vous jure, j'ai cru l'entendre me dire « Merci ». La caricature dans le soleil signée Côté. Nous sommes dans la cour d'une prison où, bien sûr, on peut voir Madame Thibault dans son fauteuil roulant. Et à un moment donné, il y a une détenue qui s'approche d'elle et qui lui dit « Ecstasy, amphétamine, cristal, meth ». Et Madame Thibault qui répond « Caviar, foie gras, champagne ». Et aujourd'hui, dans Le Soleil, Madame Moisan y va d'une chronique au sujet de Vincent Langlois-Laroche, qui un jour s'est présenté au Tim Hortons de Donnacona pour tenter de réparer les pots cassés avec son ex. Et là, il lui a remis un ordre du jour. C'est ce que nous raconte Mylène Moisan. Un ordre du jour. C'était le 3 mars 2014. Ça faisait 2 mois que Caroline Pagé lui avait donné son 4%. Elle ne l'aimait plus. Lui, il l'aimait. Enfin, il disait l'aimer et il lui a répété par texto, par courriel, en lui envoyant des fleurs à sa fête, à la Saint-Valentin, etc. En fait, il ne l'aimait pas vraiment. Il ne voulait pas la perdre, écrit Mylène Moisan. Nuance. Alors, on pourrait discourir longtemps sur ce qu'est l'amour, mais on peut au moins s'entendre sur ce qui ne l'est pas. Harceler une fille en la bombardant de courriels, la supplier de le reprendre, supprimer ses textos et ses messages pour éliminer les preuves, ce n'est pas de l'amour. Il lui aurait aussi dit que parfois il la détestait tellement qu'il voulait la tuer. Entre deux commandes de fleurs, Vincent faisait des listes, C'est la grosse mode de faire des listes, mais pas celle de Vincent, pas comme celle de Vincent, fort heureusement. Les listes de Vincent étaient plus inquiétantes. Il énumérait avec un soin maniaque les étapes qu'il devait suivre pour réaliser le crime parfait. Sortir par la fenêtre du sous-sol, approche tactique et assommer, la taper et la mettre dans le coffre, jeter l'épreuve, déjeuner avec les parents. Le procès dira si là était Caroline, tout laisse croire que oui. Depuis 3 jours au palais de justice, les avocats remontent le fil des événements. Caroline a raconté que un peu après minuit, le 8 juin 2014, après son quart de travail au CHU,
vous accompagne
un homme qui a encore pour une petite quinzaine de minutes avant que
Christiane
Campagna vienne
dans sa voiture
et reconnu la voix du handicap.
Ex.
Mais
les policiers
ont trouvé une liste sur un siège de la voiture de Vincent. L'ex-étudiant en technique policière avait oublié une étape cruciale, faire disparaître la liste. Il n'a pas non plus eu le temps d'enlever le GPS qui était sous la voiture de Caroline. Il l'a suivi partout à la trace, à partir de son nom. Il y avait ce point sur la liste, nettoyer
Christian
Rioux
dans Le Devoir
sourire.
Qui signe un papier
ça
qui s'intitule La Catalogne
dit,
et Mylène Moisan.
Et
il nous
dit
film
imaginé
des joueurs du Canadien prenant publiquement
Patrick
position en faveur de l'indépendance
qui arrive
du Québec.
À tuer et à
l'affaire provoquerait un séisme.
Une chose de vouloir mêler le sport à la politique,
une autre de
la
se préoccuper
du Parlement,
la rondelle et le bulletin de vote.
Magnota
on me demande souvent quelle est la différence entre le Québec et la Catalogne.
C'en est une autre de prévoir son emploi.
La voici résumée à sa plus simple expression.
Vincent, contrairement à tant d'indépendantistes québécois,
quoi, les Catalans n'ont pas
le lendemain matin et d'aller ensuite faire
conviction. Une kayak.
Peut-être parce
qu'un
qu'ils
bon
ont déjà
été
indépendants il y a quelques siècles de cela.
Et bien,
il
hier au tribunal,
Vincent a continué à livrer sa version
à ta victoire,
qui est le lot
qu'un amateur s'est présenté comme l'amoureux et conduit.
Pep Guardiola, notamment,
froid,
du Bayern de Munich, a beau être l'un des entraîneurs
une lettre dans laquelle il promettait de changer,
se joindre à la liste de la coalition
indépendantiste
parce que
Brown,
Spelsi,
ensemble pour le oui,
et il a dit qu'il était normalement
c'est un peu, nous dit Christian Rioux,
comme si Guy Carbonneau ou David Desharnais.
Il a raconté n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé.
Guardiola, qui est loin d'être le seul,
le défenseur du Barça, Gérard Piqué,
il est
souvent exprimé en faveur de l'indépendance.
Pardon, je n'ai pas à m'excuser de quoi que ce soit.
Il est tout simplement retourné chez lui
par ailleurs dans l'armée
ses parents.
Lors de cette élection référendaire, une centaine de sportifs ont apposé leur nom sur le manifeste indépendantiste.
Pour chaque détail, comme ce poids de 25 livres cachés à côté de la route secours,
dont les joueurs néerlandais, Johan Cruyff
et le français Eric Abidal, ainsi que Ludovic Juli.
Pendant que le Canadien recrutait des entraîneurs qui
avec
ne parlaient pas français, le Barça
s'engageait
publiquement
à défendre avec énergie la langue et le modèle d'immersion
linguistique
l'homme
catalan.
Il a 25 ans.
Vous imaginez la direction du Canadien se portant à la défense de la charte de la langue française. On peut toujours rêver, écrivait ce matin Christian Rioux dans Le Devoir.
Sujet douloureux, sujet difficile, encore une fois, une fusillade, un tireur qui fait 13
morts
dans un collège.
Dernière assemblée du conseil municipal
de Lac
Mégantic, on l'imagine,
ce matin,
ça a dû être une séance émotive pour Colette Roy-Laroche, et c'est ce que nous confirme Ronald Martel ce matin dans la tribune. La dernière assemblée du conseil municipal de Lac Mégantic, présidée hier soir par la mairesse Colette Roy-Laroche, en aura été une des plus émotives, celle qui quitte la politique.
C'est un papier de la
après une assemblée comportant plusieurs sujets à l'ordre du jour, compte tenu
dit notamment que le président américain
Barack
Obama
doivent être prises pour la bonne marche de la ville.
Il avait pris la peine de préciser en début de rencontre la mairesse
aux États-Unis.
Celle-ci et son équipe des conseillers ont eu droit à une belle ovation
pour mieux encadrer
la part des nombreuses utilisations des armes.
Deux citoyennes faisant partie
du comité de surveillance citoyenne pour la sécurité ferroviaire, Françoise Turcotte et Marie-Claude Maillet,
ont rendu un hommage
bien senti à la mairesse.
Madame Turcotte a même lu un poème du poète Cherbon
dont aucun bilan officiel n'a été
faisant les louanges de l'équipe La Roche avec des vers qui rimaient
d'une certaine manière.
La Roche,
cela est devenu
une
lecture
à l'ancien
Obama
dans la salle de presse de la Maison Blanche.
Visiblement,
la couverture médiatique est devenue une routine.
Partisane.
Finalement,
la
mairesse
a
lu avec aplomb un long message
routine.
De fin de mandat
et
qui
la réponse
a lu aussi
de ceux qui s'opposent à toute loi de bon
elle
sens.
Elle a écrit
sur
en 2002, vous m'avez fait l'immense honneur de
m'élire
à la mairie.
Routine.
Avec des responsabilités
l'idée selon
qui
laquelle
imposent
la violence par les armes serait d'une nature différente.
que notre liberté à réaliser et notre constitution au quotidien.
Nous empêche
cette
de
mission s'est transformée
même
en gestion de crise
sur
par la
suite
en gestion
d'après ces armes.
Nous avons eu des infrastructures à remplacer,
Monsieur Obama.
Et nous avons eu
prenons les Américains
par le
leadership.
Il a appelé ces derniers
à demander des comptes à leurs élus
avec
sur
une prospérité durable et assurer la qualité de vie de nos citoyens.
Comme celui-ci,
à livrer la mairesse avec émotion.
Je répéterai
c'est
que
ce qui m'a guidé
faire quelque chose.
Et même si tout n'est pas parfait,
mais
je suis fier du travail accompli durant ces 13 dernières années.
Changer nos lois.
Je veux rendre hommage, a-t-elle dit, à ceux qui ont travaillé avec moi, les fonctionnaires et employés municipaux,
en 2012,
les bénévoles des organismes, deux directeurs généraux, Claude Périnet et Gilles Bertrand, avec le soutien des élus tout au long de ces trois mandats.
Surtout ces deux dernières années.
Plus tard, le destin d'une ville, a dit Mme Colette Roy-Laroche, n'est pas tracé d'avance. S'il se construit chaque jour, il se reconstruit chaque jour. C'est un combat de tous les instants.
Alors,
nous avons puisé dans la solidarité que nous a démontré tout le Québec, notre région et notre communauté. Je vous remercie tous de m'avoir offert de diriger les destinées de notre ville durant toutes ces années. Merci.
Allez, un sujet un petit peu plus léger maintenant. Figurez-vous qu'en France, Paris ne veut plus être la ville des mégots. Chantal Guy écrit dans la presse « Depuis hier, on espère que les rues de Paris ne soient plus des cendriers à ciel ouvert, alors que le cendrier trône sur à peu près toutes les tables des terrasses. En effet, on imposera dorénavant 68 euros, à peu près 100 dollars canadiens, d'amende aux fumeurs qui écraseront leurs cigarettes sur le bitume. Après un mois de sensibilisation pendant lequel des brigades anti-incivilité ont distribué de fausses amendes, la mesure a été officialisée le 1er octobre et touche aussi les mâcheurs de chewing-gum et autres personnes tentées de jeter leur détritus par terre. Auparavant, l'amende était de 35 euros, à peine plus de 50 dollars. On souhaite que l'augmentation soit assez dissuasive pour changer les mauvaises habitudes. Pour faciliter ce changement, écrit Chantal Guy, 30 000 éteignoirs ont été ajoutés aux poubelles de la ville, soit un tous les 100 mètres environ. Ça, c'est brillant. La mairie rappelle que chaque année, 350 000 tonnes de mégots sont ramassées par la voirie dans la capitale. Voulez-vous que je vous redonne ce chiffre ? 350 000 tonnes de mégots. Mais c'est énorme. Je veux dire, ça pèse rien, un mégot de cigarette, quoi. 350 000 tonnes de mégots sont ramassées par la voirie dans la capitale, ce qui a fait dire à Mao Pénimou, adjoint à la mairie de Paris, à la maire de Paris, Anne Hidalgo, « Paris n'est pas une ville sale, c'est une ville qu'on salit. Paris, qui a mauvaise réputation quant à la propreté, et a été classé 24e sur 40 villes à cet effet, selon une étude de TripAdvisor en 2012. Mais lorsqu'on demande aux Parisiens de la rue si cette mesure pourrait être efficace, le scepticisme se fait entendre et la réponse est le plus souvent non, accompagnée d'un sourire ironique. On est d'accord avec le principe, mais on n'y croit pas. C'est comme pour les crottes de chien, compare Raphaël Freund, le copropriétaire du musée du fumeur, rue Pache, dans le 11e arrondissement. Mon Dieu, je ne savais même pas qu'il y avait un musée du fumeur à Paris. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont reçu des amendes pour ne pas l'avoir ramassé. C'est comme aussi pour la vente de tabac aux mineurs. Les Français doivent se marrer. On ne sait pas faire de la répression. Raphaël Freund, copropriétaire du musée du fumeur, a dit « On n'aime pas trop les interdictions en France. On a toujours cette image d'hédoniste avec la cigarette. Il faut des moyens. Dans certains quartiers, il y a des agents qui pourraient avoir peur de se faire tabasser en donnant une amende. » Il souligne aussi que depuis l'augmentation du prix des cigarettes, plus de 60% des mégots proviennent de cigarettes de contrebande. Seulement 500 agents civils du service technique de la propreté de Paris patrouilleront dans les rues pour punir les fumeurs récalcitrants, selon un article du Figaro. Ils croient plus à l'utilité des éteignoirs installés sur les corbeilles. Bref, c'est un changement de mentalité qui doit être fait. Et qui sait, les cendriers de poche deviendront peut-être plus populaires dans les mois à venir. Moi, ce que je trouve bien, c'est que une mesure de nature coercitive, comme l'amende, s'accompagne en même temps d'une mesure pratique. En l'occurrence, les éteignoirs. Ça, je trouve ça chouette. Parce que bon, si après tout, tu peux peut-être attendre 100 mètres avant d'écraser ton mégot par terre, si tu sais que tu vas pouvoir l'écraser dans un... Alors bon, bah, on verra bien si ce sera utile ou pas, mais au moins, il y a des mesures pour que ce soit utile. Bah, ça, c'est déjà pas mal. We'll be right back. Et puis, en bref, autour du monde, aux États-Unis, l'ouragan Joaquin, extrêmement dangereux, nous dit-on. Joaquin est devenu hier l'ouragan le plus puissant de la saison dans l'Atlantique et ses vents violents pourraient frapper la côte est des États-Unis ce week-end, ce qui pousse plusieurs États à prendre des précautions. Joaquin, apparemment, a progressé en ouragan extrêmement dangereux de catégorie 4 sur une échelle de 5, ont averti les experts du Centre américain de surveillance des ouragans établi à Miami en Floride. Avec des vents soufflant jusqu'à 210 km/h, l'œil du cyclone se trouvait hier soir au centre de l'archipel des Bahamas. En Afghanistan, l'armée reprend une partie de Kunduz. Les forces afghanes ont repris hier une partie de la ville stratégique de Kunduz des mains des talibans qui bataillaient fermement pour conserver leur ascendant dans certains quartiers. La reprise de Kunduz, si elle devait se confirmer, serait toutefois loin de marquer pour Kaboul une victoire à long terme contre les talibans. 2,7 degrés Celsius, je parle de climat. Plutôt, on parle de climat dans cette page consacrée au monde en bref de la presse plus. La planète s'achemine vers un réchauffement de 2,7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, au vu des promesses de réduction des gaz à effet de serre faites par les États pour la conférence de Paris. Un progrès jugé notable mais insuffisant. L'objectif de plus 2 degrés que s'est fixé la communauté internationale n'est donc toujours pas atteint, soulignent des experts du Climate Action Tracker. Et enfin, en Syrie, c'est un véritable casse-tête autour des frappes russes. La Russie a mené hier pour la deuxième journée consécutive des frappes en Syrie contre les opposants au régime de Bachar al-Assad au moment où militaires russes et américains se coordonnaient pour éviter tout incident dans l'espace aérien syrien. Un petit peu de culture, c'est surtout une chronique de Cassivi que j'avais envie de vous lire, c'est paru dans la presse ce matin. Paul Doucet, et d'ailleurs on le voit en photo, incarne Stephen Harper dans « Gibor s'en va en guerre », le nouveau film de Philippe Falardeau, ou du moins un premier ministre canadien qui a tout d'un Stephen Harper, un conservateur aguerri, froidement calculateur, joueur de piano et de guitare dans ses temps libres. Doucet, parfaitement bilingue, ajoute à son interprétation l'accent français robotique et le sourire condescendant de M. Harper en prime, on ne peut s'y méprendre. Son personnage, peu présent à l'écran, est au cœur de l'intrigue du film de Falardeau. Une satire politique efficace, hein, on le sait, sur un député d'arrière-ban, Steve Gibor, Patrick Huard est d'ailleurs excellent, qui se retrouve à détenir la balance du pouvoir sur une proposition d'entrée en guerre du gouvernement au Moyen-Orient, baptisée « Canada for Freedom ». Dans une scène pivot du film, le maire d'un village du Nord, écrit Cassivi, adversaire de Gibor, s'adresse à l'assemblée de citoyens réunis afin de donner leur avis sur la proposition du gouvernement. Il sort de la poche de son veston une note interne coulée par l'entourage du Premier ministre qui garantit une vague de création d'emplois dans la région si Gibor vote du bon bord. Je vais vous dire ce qui va changer, moi, si on part en guerre. Des jobs. Qui c'est qui est pour la guerre ici? Le « ouais » est spontané, unanime et retentissant et le débat sur la pertinence d'entrer en guerre évacué en moins de temps qu'il n'en faut pour épeler le mot « démagogie ». J'ai pensé, dit Cassivi, à l'affaire du niqab, montée en épingle par le gouvernement Harper afin de distraire l'électorat d'enjeux plus pressants avec un succès redoutable. Exemple archétypal de la politique de la division qui consiste à enflammer la population avec une image forte et controversée afin de détourner son attention d'enjeux fondamentaux moins polarisants. Dans l'œuvre de fiction de Philippe Falardeau, cela se traduit par une équation simple, la promesse d'emploi contre la promesse d'un appui à la guerre dans une région où l'on devine que le taux de chômage est élevé. Tant pis pour les questions philosophiques entourant le bien fondé d'une intervention armée, le prix à payer en dommages collatéraux, les pertes de vies humaines et autres détails insignifiants, tant qu'on nous promet des jobs, point de suspension. Bref, comment instrumentaliser un enjeu à des fins politiques ou dans le cadre réel qui est le nôtre actuellement électoraliste, à l'instar du maire de Gibor s'en va en guerre et de son alter ego à l'écran, le vrai Stephen Harper adapte au besoin son discours à son auditoire. Il parle davantage de la menace du niqab à Québec qu'à Calgary et il lance pour son auditoire francophone des phrases prémâchées par ses stratèges, le gros bon sens, afin de mieux faire vibrer les cordes sensibles des Québécois, tout en promettant une loi contre les hausses d'impôts et de taxes. Alors, en découvrant Guy Bors, s'en va en guerre, nous dit Cassivi, j'ai repensé à ce principe fondamental, non seulement de la politique, mais de la psychologie humaine. Ce qui intéresse d'abord et avant tout l'électeur moyen, c'est son propre intérêt. Point barre. Tiens, et puis je finirai avec cette chronique d'Émilie Côté. Toujours dans la presse, on nous dit que sur scène avec Stevie Wonder, il y avait 10 Québécois. Si tout Montréal savait que Stevie Wonder se produisait au Centre Bell avant-hier, eh bien beaucoup de gens ignoraient que 10 musiciens québécois partageaient la scène avec lui. En fait, c'est une section de cordes 100% québécoise qui est venue se greffer à la douzaine de musiciens de la légende de Motown. Tout un trip, résume Frédéric Lambert, connu pour son travail polyvalent avec le quatuor Molinari, qui a collaboré avec Philippe B et Philémon Simon, entre autres. Le spectacle Stevie Wonder a duré près de 4 heures. Nous sommes restés pour la première partie et pour le début de la deuxième. Pour de gros shows comme celui de Stevie Wonder, qui veulent la totale, on engage des musiciens sur place, explique le musicien. Mais il faut être un geek de haut niveau. Nous arrivons à 16h30 sans avoir eu les partitions. On répète pendant 2 heures au test de son et puis le spectacle commence. On dit pas geek, hein? On dit geek? Non, on dit geek. On dit geek parce qu'à chaque fois, je me pose la question. Mais là, pour une fois que je l'avais, j'étais sûre que je l'avais pas.
Je pensais que vous alliez dire pour une fois que la geek était là.
Oui. Alors, écoutez, ça va vite, ça va donc très vite. Il faut être très concentré. Il y avait un chef d'orchestre. Tu n'as pas le droit de te tromper, écrit Frédéric Lambert, qui a dit que le métier de musicien était de tout repos. Nous, si on fait de
sûrement
la
lecture...
Non, c'est ça. Si on fait, nous, de la lecture à première vue, bien, les musiciens font aussi de la lecture de partition à première vue. Et inutile de vous dire que quand vous êtes derrière Stevie Wonder, il vaut mieux ne pas se tromper, j'imagine. Alors, c'est fini pour les voix de service aujourd'hui. Je voudrais remercier Rémi Hermoso qui était en régie, remercier tous les collaborateurs qui sont venus autour de cette table ce matin, dont Christiane Campagna d'ailleurs, à qui je laisse le micro pour animer pour vous le bulletin du handicap. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Je vous retrouve lundi à 9h. Salut!
Bonjour, mon nom est Daniel Laferrière et vous écoutez Canal M, la radio de Vuzévoix.
Canal M, pour voir autrement.